Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneau.
Bonjour Lénaïque Meunier.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 7h sur Europe 1. Très bonne journée à tous.
Bah on est flippés quoi. On entendait les gens crier dans la rue « Attentat, attentat ». Bien sûr que c'est des réminiscences. Dans le 11e, on se sent fragilisé et on se sent particulièrement visé.
L'effroi, la peur, hier dans le 11e arrondissement de Paris, 5 ans après les attentats de Charlie Hebdo, 2 personnes attaquées à l'arme blanche au même endroit.
Le quartier n'était pas surveillé alors que la menace planait, les informations de Guillaume Bié dans ce journal.
Des mesures anti-Covid entrent en vigueur un peu partout aujourd'hui. À Lille, par exemple, fini le sport en salle ou la piscine.
Et puis, météo morose, on vient de le voir avec Valérie. Et Français en quête de repères, Roland Garros ne démarre pas sous les meilleurs auspices.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
7 personnes sont donc en garde à vue depuis hier soir après l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris.
Et d'abord le point sur l'enquête. Le principal suspect a reconnu avoir attaqué 2 personnes à coups de hachoir hier un peu avant midi. Un autre suspect, vu pas très loin de lui dans le métro, a également été interpellé rapidement. Et 5 proches de l'assaillant ont été interpellés à son domicile hier soir. Une attaque qui intervient alors que le niveau de la menace s'était accru depuis le début du mois de septembre. Des menaces directes d'Al-Qaïda, notamment après la republication des caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo. Guillaume Bié.
C'est le scénario que tout le monde redoutait, une attaque terroriste aveugle en lien avec Charlie Hebdo. Depuis que l'hebdomadaire a republié les caricatures de Mahomet juste avant le procès de la tuerie de janvier 2015, les signaux d'alerte se multiplient dans les services de renseignement, à tel point que la protection rapprochée des membres de Charlie Hebdo a été fortement renforcée. Il y a 15 jours, c'est le spectre d'Al-Qaïda qui est réapparu. Dans 2 publications, le groupe terroriste a ouvertement appelé à commettre de nouvelles attaques. Les enquêteurs spécialisés de la brigade criminelle vont chercher à savoir si cette propagande a pu pousser l'auteur présumé à passer à l'acte devant les anciens locaux de Charlie Hebdo en plein procès. Sur place, rue Appert, aucun dispositif de sécurité particulier n'était déployé. Il faut dire que la rédaction du magazine a déménagé il y a bien longtemps vers un lieu sécurisé et hormis cette adresse tristement symbolique, il n'y a plus de cible à protéger. Néanmoins, le ministre de l'Intérieur l'a dit hier soir, la menace dans cette rue a été sous-évaluée selon lui. Il a donc demandé des explications au préfet de police de Paris.
Et pour y voir plus clair, je reçois le spécialiste Wassim Nasser tout à l'heure à 7h40. 5 ans après, à la même heure, au même endroit, le 11e arrondissement est redevenu un quartier sous le choc.
Charlie Hebdo, le Bataclan, les terrasses, c'est dans un quartier parisien déjà traumatisé qu'a eu lieu cette attaque à l'arme blanche qui a donc réveillé les cauchemars d'il y a 5 ans, précisément devant les anciens locaux de l'hebdomadaire satirique. Quartier qui se sent donc de nouveau touché en plein cœur avec des habitants dans le clocher comme Diana, rencontrée par Hélène Terzian.
Bah on est flippés, quoi. On entendait les gens crier dans la rue « Attentat, attentat !» On est tous partis se réfugier quelque part. Oui, bien sûr que c'est des réminiscences. Parce que j'ai pensé à 2015, il y a le procès de Charlie Hebdo, je suis entre Charlie Hebdo et le Bataclan, on nous dit qu'il y a une attaque, c'est obligé de se souvenir de ça. Et puis tous les gens que j'ai vus dans la rue, avec qui on a parlé, ont la même sensation, cette sensation de peur partagée avec cette envie de pouvoir vivre un peu, donc de ne pas savoir comment faire. Puis des incompréhensions, je sais pas, il y a le procès de Charlie Hebdo, pourquoi il n'y a pas des sécurités sur les endroits stratégiques. Je me dis que c'est des lieux qui sont attaqués, qui potentiellement peuvent être réattaqués. Dans le 11e, on se sent fragilisé et on se sent particulièrement visé. On ne peut pas dire le contraire.
Voilà, les démons qui se sont réveillés. Une cellule de crise a été installée, elle est encore en place.
Les salles de sport et les piscines ferment donc ce matin à Lille.
Foot, fitness, natation, tout ça s'est terminé à cause du nombre de cas de Covid. Maximilien Carrier s'est rendu dans un club de badminton et de squash, l'Arbonaz, juste après le communiqué de la préfecture. Derniers efforts et première colère des adhérents.
Annulation des cours, des entraînements, les salariés ont passé leur après-midi au téléphone, il a fallu prévenir tout le monde.
Oui, bonjour Laurent, ici Quentin de l'Arbonnoise. Je t'appelle concernant ta réservation.
Oui, alors on vient d'avoir les nouvelles annonces du préfet et malheureusement notre club doit fermer ses portes demain dès 6h du matin.
Au bout du fil, des clients désabusés.
Ils sont choqués parce qu'ils ne s'attendaient pas à une fermeture aussi rapide, surtout qu'ils nous appellent depuis quelques jours.
Le timing, c'est ce qui met en colère Marie, la co-responsable.
C'est rude. Oui, parce qu'on s'était un peu préparé à fermer lundi et à prendre la veille à 15h qu'on doit fermer le lendemain matin. Oui, c'est dur. C'est quand même un petit manque de respect pour notre activité.
Sur les cours de badminton, Mylène s'entraîne avec des amis une dernière fois.
On est tous déçus forcément que ça ferme parce qu'on a tous envie de continuer à faire une pratique sportive. Maintenant, si c'est nécessaire et si c'est vraiment la chose à faire pour arrêter de propager le virus, bien sûr qu'on est responsable et c'est comme ça. C'est une mauvaise période à passer.
Et certains envisagent de jouer ailleurs pendant ces deux semaines de restrictions, sortir de la métropole lilloise pour continuer à pratiquer. Villeneuve d'Ascq, Maximilien Carli, Europe 1.
Et puis la colère à Marseille. Hier aussi, Olivier Véran s'est rendu pour expliquer le bien fondé des nouvelles mesures. Les bars et les restaurants vont fermer deux semaines. Il y a un petit rap de temps à partir de demain soir seulement.
Ouais, pour écouler les stocks, notamment. Report à lundi aussi pour la fermeture des bars et restaurants de Guadeloupe. Et là encore, c'est le soulagement.
Oui, c'était exactement le même cas que Marseille. L'île devait fermer ses bars et restaurants. Mais l'exemple a motivé les Guadeloupéens pour demander la même chose. Ils l'ont obtenu. Satisfaction donc de Rudy Nainan. Il est président du regroupement des restaurateurs de Guadeloupe.
On a réussi à obtenir les mêmes conditions que Marseille. Merci Marseille pour le travail qu'ils ont fait. Vraiment, c'est un travail qui a été bénéfique pour la Guadeloupe. Donc merci beaucoup. Merci aux politiques et aux restaurateurs de Marseille. Quand j'ai remonté l'information que Marseille avait obtenu deux jours de plus, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème pour qu'ils puissent s'aligner. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut que les choses soient justes. Il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Quand on nous annonce une fermeture brutale, un restaurateur a fait du stock, s'est engagé. Il y aura forcément des pertes qui sont considérables. Et puis, on nous arrête, mais on ne sait pas pour combien de temps. Donc, arriver à obtenir ne serait-ce que deux jours, c'est important. L'important, c'est deux jours de travail de plus. Ça va permettre aux restaurateurs de la Guadeloupe déjà d'écouler leur stock. D'avoir deux jours de plus, c'est déjà une petite bouffée d'oxygène. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est énorme.
Le président du regroupement des restaurateurs de Guadeloupe avec Mathieu Bock. Et puis à Paris, enfin, la préfecture a donné le détail des mesures. Qui devront fermer de 22h à 6h, c'est confirmé. La vente d'alcool et sa consommation sur la voie publique seront interdites également à partir de 22h.
La restauration n'est pas le seul secteur à souffrir des nouvelles mesures anti-Covid. Les nouvelles ne sont pas bonnes non plus pour les professionnels de l'événementiel.
Oui, jusqu'à présent, la jauge était de 5000 personnes pour les grands événements. Mais dès ce matin, dans les villes en zone d'alerte, elle passe à 1000. Résultats, annulations et reports qui vont pleuvoir et plonger un peu plus la filière dans une crise sans précédent. Élise Dangean.
C'est un coup de massue et les effets sont immédiats. La foire de Saint-Étienne, par exemple, annulée à la dernière minute. Elle aurait dû commencer hier soir en mode dégradé. 4000 visiteurs contre 100 000 habituellement. Tout était prêt, tout était monté. C'est cataclysmique, nous dit-on chez JL Event, en charge de l'événement. Autre grand salon annulé, celui des professionnels de l'agroalimentaire, le CEFIA, qui devait se tenir à Rennes. Et la colère monte, explique Olivier Roux, président d'UNIMEV, le syndicat des organisations organisateurs de foires, salons et congrès.
Il y a un sentiment un peu d'injustice et de totale incompréhension. Lorsque l'on compare les centres commerciaux ou d'autres lieux d'accueil, nous avons un protocole sanitaire validé par les ministères qui est très contraignant, alors que l'on voit à côté de ça qu'il y a d'autres secteurs d'activité qui n'ont pas cette contrainte-là.
Et au-delà de la colère, l'inquiétude, la filière qui génère environ 450 000 emplois directs et indirects a déjà perdu 80% de son chiffre d'affaires cette année. Les professionnels du secteur réclament donc plus de clarté et d'accompagnement de la part des pouvoirs publics. On ne demande pas un plan de relance, on demande un plan de sauvetage.
Et il y a un événement qui devrait bien se tenir, mais dans quelles conditions? Le nouveau Premier ministre japonais annonce vouloir accueillir les Jeux en 2021 comme preuve de la victoire de l'humanité sur la pandémie, avec ou sans vaccin, au moment pourtant où l'OMS craint la mort de 2 millions de personnes à terme si tout n'est pas fait pour combattre le virus.
Il est 7h08, vous restez avec nous, la politique et Édouard Philippe de nouveau sur le pont, un ex-premier ministre qui joue les traits d'union. On voit ça dans un instant.
Europe 1, votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal de Lénaïque Meunier à 7h10. Édouard Philippe a fait sa rentrée hier à Angers auprès des maires de la droite et du centre.
Autrement dit, ceux qui sont compatibles avec Emmanuel Macron. Aux ateliers de la République des maires, l'ancien Premier ministre en a profité pour réaffirmer sa loyauté à l'égard du président de la République, Aurélie Herbemont.
Le temps n'est pas venu pour les aventures personnelles, c'est ce qu'Édouard Philippe a expliqué dans le huis clos de ses retrouvailles avec ses amis maires. Malgré sa popularité insolente et ceux qui rêvent de le voir candidat en 2022, pas question pour l'ancien Premier ministre d'attiser la moindre rivalité avec Emmanuel Macron, selon son ami le député Thierry Solaire.
La situation aujourd'hui n'est pas aux aventures personnelles, il l'a rappelé. lui s'inscrit parfaitement toujours dans cette logique de dépassement qui a été initiée par le président de la République. Et plus que jamais, il considère que les aventures personnelles, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est produire des idées et donc travailler.
Travailler tout en restant loyal au chef de l'État, assure le maire d'Angers, Christophe Béchu.
Il a redit à quel point il restait fidèle à l'esprit de 2017. Ce sont d'ailleurs les propos qu'il a tenus, qui étaient finalement marqués par un triptyque porté par Emmanuel Macron, que le pays avait besoin d'audace, qu'il avait besoin de dépassement, qu'il avait besoin de réforme.
Édouard Philippe, qui entretient son réseau d'élus de droite et du centre, mais pas pour en faire une écurie en ordre de marche derrière lui à ce stade. Il est là pour les garder dans l'orbite du président, confie un de ses proches, car il ne faut pas laisser dans la nature ceux qui pourraient être tentés d'aller voir ailleurs. Du côté de Xavier Bertrand, par exemple. Angers, Aurélie Herbemont, Europe 1.
Et si on parle d'Édouard Philippe, on peut aussi évoquer son mentor, Alain Juppé. Il sera avec moi tout à l'heure à 8h15 pour justement évoquer le premier anniversaire de la mort de Jacques Chirac. Roland Garros, à présent, Roland Garros, ça commence demain à 11h, Europe 1 et radio officielle de Roland Garros. Ça commence, mais ça commence pas dans les meilleures conditions.
Bah déjà, il fait froid, il fait gris, il n'y a que 1000 supporters par jour pendant la quinzaine. Et comme si ça ne suffisait pas, Corinne Boulou, les Français ne sont pas au mieux de leur forme.
Oui, c'est vrai que le clan tricolore part un peu dans l'inconnu, manque de repères pour les uns, en recherche de sensations pour les autres, sans compter cette transition express inédite entre deux surfaces, le dur de l'US Open et la terre battue de Roland-Garros. En l'absence de Joe Wilfried Tsonga et Lucas Pouille, Sébastien Grosjean, le capitaine de Coupe Davis, mise avant tout sur le numéro 1 français, Gaël Monfils.
Même s'il a très peu joué depuis la reprise, que ça a été difficile, il reste une chance forte, bien sûr, pour le côté français. Sur le tirage au sort, il a peut-être également quelques tours pour entrer dans ce tournoi. On se souvient, par le passé, Gaël arrivant à Roland-Garros avec très peu de victoires ou un peu diminué physiquement. Et il a réussi à chaque fois à passer les tours, à se retrouver en deuxième semaine.
Et signe que la situation s'arrange pour lui, Benoît Paire, touché par le Covid à la veille de l'US Open, était à l'entraînement hier à Roland-Garros. Dans le tableau féminin, le contingent français comptera sur ses championnes de Fed Cup, notamment sur Alizé Cornet, huitième de finaliste à New York, et Fiona Ferro, qui revient de blessure après un bon début d'été.
Et côté foot, début hier soir de la cinquième journée de Ligue 1, Lille a dominé Nantes 2-0 et s'est emparé de la tête du championnat devant Saint-Etienne et Rennes qui d'ailleurs s'affrontent à 17h.
Merci, c'était le journal de Lénaïque Meunier. Lénaïque qui revient à 8h pour le Grand Journal.